la fin de l'appel, nous allons les envoyer aux intervenants, aux présentateurs, afin qu'ils les répondent sur la page Wiki. D'autre part, on a également ajouté une nouvelle partie consacrée à l'évaluation du séminaire web. Cette partie de l'évaluation sera à remplir à la fin du séminaire web. Il s'agit de 5 questions à choix multiples qu'il faudra compléter et qu'on verra à la fin de l'appel, comme je l'ai dit. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin du webinaire et même un peu plus après pour pouvoir remplir cette évaluation afin que l'on puisse améliorer nos séminaires web. Voilà ce qui est des notes et des annonces. Et nous allons revoir cela à la fin de l'appel. Merci et on donne maintenant la parole à Olivier. Ah oui, Alan, allez-y. Oui, ce n'est qu'un instant, pardon. Je suis Alan Grimberg. Comme vous savez déjà, je suis le président d'ALAC et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce séminaire web dont le but est de vous fournir une mise à jour par rapport à l'état actuel des aspects et des activités liées à la transition des Fonfeyana. Donc les deux parties dont nous allons discuter aujourd'hui sont la présentation de l'ALAC à l'ICG, le groupe de coordination qui supervise le plan de transition lui-même. Et nous allons donc réviser les contributions faites par l'ALAC ainsi que l'état actuel du travail du groupe. Après cela, je prendrai la parole pour expliquer le travail fait en matière de responsabilité parce que l'ALAC a présenté un commentaire sur la responsabilité. Et en réalité, on voit que cette déclaration ne reflète pas exactement les discussions maintenues pendant la réunion. Donc, je vais adresser cette question à la fin de la présentation. En même temps, j'aborderai la question de la quantité de personnes qui ont participé à ce séminaire web qu'on a organisé pour traiter la question de la responsabilité il y a à peu près un mois. Un bon nombre des personnes peuvent déjà avoir vu cela. Et donc, je prendrai la parole pour aborder officiellement la question. Donc, maintenant, on va donner la parole à Olivier pour qu'il nous parle de la transition Yana. Merci, Alan. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui parle. Je vérifie d'abord que vous m'entendiez tous. Oui, moi, je vous entends, dit Alan. Bien, parfait, dit Olivier. La supervision de Yana est la responsabilité de l'ICAN. Les postes de l'ALAC consacrés à ces deux fonctions. Je pense qu'on devrait commencer par cela parce qu'une bonne partie du travail de responsabilité de l'ICAN va avoir un impact sur la transition du rôle de supervision de Fonfeyana. On travaille beaucoup sur la responsabilité de l'ICAN en ce moment et donc je me suis dit que ce serait bien de parler d'abord un peu de la proposition du groupe de travail pour la transition du rôle de supervision de Fonfeyana et par la suite de reprendre les commentaires que l'ALAC a fait dans le système ces derniers mois. Donc j'essaierai d'aller rapidement parce que je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de discuter du travail de responsabilité de l'ICAN qui est en cours en ce moment. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail qui a été fait récemment et donc je pense qu'on devrait passer directement à la première diapo. Ah, je peux contrôler moi-même la présentation, c'est excellent. Alors, on devrait d'abord expliquer qu'il y a un système qui fonctionne déjà depuis un moment et c'est un système de supervision. La supervision gère des contrats, elle contrôle les contrats. Attendez, le contrat actuel, ah, voilà la flèche verte, implique qu'il est possible en ce moment que la NDIA, et donc à travers la NDIA, le gouvernement des États-Unis, a un contrôle avec les GAN pour gérer les fonctions IANA. La supervision de ce contrat implique que toutes ces questions sont contrôlées direct ou indirectement par le gouvernement des États-Unis. Le groupe de travail a essayé d'explorer les différentes possibilités pour le contrat, et dans ce cas-là, le contrat devrait être conclu entre l'ICANN et une entité indépendante de l'ICANN qui s'appellerait PTI ou IANA de la pré-transition. Les membres seront créés en tant qu'entité avec un statut juridique indépendant où la plupart de la communauté de l'ICANN participerait. Donc on a un comité permanent des clients, on a une équipe de révision des fonctions IANA et on a également une autre entité composée de registres, le bureau d'enregistrement, des parties prenantes des noms, des personnes impliquées dans les fonctions spécifiques des numéros et des paramètres de protocole également. Donc ce sont les clients, en définitive, de l'IANA de la pré-transition. Voyant dehors aussi une boîte orange qui est les mécanismes de responsabilité du CCWG responsabilité. L'idée est d'assurer que tout le modèle de la pré-transition soit responsable ou transparent, qu'il y ait une reddition de compte. Mais on se demande à qui il faudrait rendre compte. Donc voilà où on en est. Le contrat actuel et le cadre de la pré-transition telle que prévue jusqu'à présent avec le plan élaboré et les mesures à mettre en œuvre. Ici, on voit les différentes parties composantes rapidement. On voit d'une part l'IANA de la pré-transition. On voit les différentes fonctions IANA. Comme je viens de dire, ce sont trois fonctions parce qu'il y a trois clients, différentes communautés opérationnelles, des noms, des numéros et des protocoles, des paramètres de protocole. Seule la communauté des noms a décidé de passer directement à l'IANA de la pré-transition. Les autres communautés ont décidé de discuter de la question avec l'ICANN pour voir comment l'ICANN pourrait gérer cela. Tout le monde comprend que l'ICANN est un bon opérateur et donc ils ont décidé de continuer à travailler avec l'ICANN directement. L'idée de créer une nouvelle entité qui serait l'IANA de la pré-transition est d'assurer que le processus permette d'avoir une IANA financée par l'ICANN qui serait de toute façon une entité séparée afin de pouvoir conclure un contrat entre l'ICANN et l'IANA de la pré-transition. Le travail de cette IANA de la pré-transition impliquerait un niveau d'accord minimum et le seul recours serait de maintenir le contrat existant pour que les fonctions IANA puissent être déléguées en matière d'opération à d'autres entités. Donc il me semble qu'ici l'idée serait d'avoir un conseil d'administration au sein de cette IANA de pré-transition qui gère les fonctions et qui communique avec le comité permanent des clients. L'idée était d'avoir une ICANN responsable envers la PTI, l'ICANN comme opérateur et une entité qui dirige l'IANA. Donc, les deux directeurs indépendants et les personnes techniques qui gèrent les fonctions techniques. Justement, il n'y a pas de question politique impliquée dans cette IANA de la pré-transition. Voilà une des propositions. D'autre part, on a également proposé de créer un comité permanent de clients chargé d'assumer le rôle du gouvernement des États-Unis et de garantir que l'IANA de la pré-transition, que le service, cette IANA de la pré-transition, de cet opérateur soit à la hauteur des services fournis aux différents consommateurs. Cette entité, qui est le comité permanent de clients, devrait être conformée par les différents clients, les différentes communautés techniques. Donc, deux opérateurs de registre GTLD, deux opérateurs de registre CCTLD, un représentant de TLD supplémentaire qui devrait être une personne qui n'appartienne ni au registre GTLD ni au registre CCTLD. Cette diapo, je l'ai empruntée d'une autre présentation. Donc en fait, c'est non GNSO et non CCNSO qu'on devrait dire ici. Un agent de liaison de l'IANA elle-même, ce qui est important parce que c'est là qu'on aura le lien entre le comité permanent des clients et l'IANA. C'est cette personne qui assurera la communication entre les deux. Et puis un agent de liaison de l'organisation, des organisations de soutien et des comités consultatifs de l'ICAL. Donc 5 agents de liaison, il y aurait un pour chaque SO et AC. Donc il est important de noter à ce point-là que les contributions de la communauté à large et de la LAC seraient transmises à travers cet agent de liaison. La possibilité d'avoir un agent de liaison qui intègre ce comité implique que le travail du comité serait également très transparent grâce à cette communication. Une autre composante du modèle est la partie de la responsabilité, c'est la révision des fonctions IANA. Il y aura périodiquement des révisions des fonctions afin de vérifier que le travail ait été bien fait. Et il y a un organisme qui sera chargé de vérifier cela. On vérifiera la qualité du service et la responsabilité, la reddition de compte de l'entité chargée d'assurer ce travail. Auparavant, on parlait de l'équipe de révision des fonds IANA. La fonction de révision des fonctions est assurée par l'équipe de révision. Vous voyez en bas de la page, sans doute, et j'espère que vous pourrez le voir, parce que c'est vrai que la taille de l'écriture n'est pas très grande, mais on voit les différents clients qui composent IANA, ainsi que les représentants d'Adlarge, du comité consultatif des opérateurs de serveurs racines, du comité consultatif de la sécurité et la stabilité, et le comité consultatif des gouvernements aussi. Le travail de ce comité devrait bien fonctionner. Bien sûr, s'il nous reste quelque chose à faire, parce que les fonctions ne sont pas bien opérées à ce point-là, l'équipe de révision de la fonction sera chargée de vérifier que l'ICAN vérifie cela. Donc il va falloir trouver un moyen de résoudre les problèmes ou s'engager à lancer une proposition pour travailler avec ce rapport dans l'IANA de la pré-transition. ALAC a eu différentes opportunités d'exprimer son opinion au sujet de la transition de la supervision de François IANA. Dans le groupe de travail, il y a eu différents points sur lesquels on a dû arriver à un consensus et auxquels l'ALAC a participé. Les trois expressions les plus récentes sont sur la ratification, d'une part, sujet sur lequel on a publié une proposition préliminaire du groupe de travail le 26 mai. Cette déclaration a été publiée pour les commentaires du public et l'ALAC a présenté une réponse assez longue là-dessus. D'autre part, l'ALAC s'est réunie lors de la dernière réunion en personne à Buenos Aires pour ratifier justement la proposition qui avait été faite grâce à nos premiers commentaires. Nous avons ratifié cela et nous avons également fait d'autres remarques sur la ratification de la proposition elle-même. Plus récemment, il y a eu un commentaire très bref fait dans la consultation publique du groupe de coordination IANA, c'est l'ICG, le groupe chargée d'élaborer la proposition des noms, des numéros et des paramètres de protocole en tant que version consolidée. Donc, ils ont reçu les trois et ils ont consolidé les trois propositions en une. Donc, si vous voyez les commentaires sur la consultation du 26 mai, comme vous voyez, il y a eu un bon nombre de commentaires que je discute très rapidement avec vous. Je pense que ce sont des commentaires qui sont importants et qui n'ont pas été vraiment traités. D'abord, nous avons vraiment une inquiétude sur le manque de contrôle du conseil de la PTE. La LAC a une agence de liaison dans le comité de clients permanents, c'est ça qui les inquiète, et dans le conseil d'administration de la PTI. Mais cela n'était pas suffisant, on nous a dit. Le conseil de la PTI, de l'IANA de la pré-transition, a manifesté différentes inquiétudes. Lorsqu'on voyait qu'on n'avait pas vraiment l'occasion d'avoir des sièges, des communautés qui n'étaient pas des clients directs, tels que At Large. Le bénéfice des limites et des budgets prédéfinis pourrait être atteint beaucoup plus facilement si on travaillait en coordination avec Yana plutôt que à travers un processus plus compliqué, duquel Alan pourrait vous parler des budgets de Yana, de Ligan et du comité, etc. Notre communauté est également intéressée aux bénéfices des différents contrats. Yana de la pré-transition aurait un contrat strict de Ligan, avec des implications juridiques strictes, parce que ce qu'on a applique les deux parts. On se dit qu'on ne veut plus travailler ensemble lorsqu'on voit cela. Et je pense que notre communauté a senti que c'était ce qui était exprimé dans cette déclaration. Mais il est difficile pour l'ICAN et pour la LAC, en réalité, de faire attention à l'avis de toutes les parties, parce que chacun a son propre intérêt. On a ici le processus d'évolutivité qui a aussi été repris. On n'a pas de schéma là-dessus, on n'a jamais vu un schéma pour l'intervention progressive des entités lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne peut pas obtenir la qualité du service nécessaire de Yana, la CSNSO et la GNSO, organisation de soutien aux extensions géographiques et l'organisation de soutien aux extensions génériques, devraient autoriser une séparation fonctionnelle. La LAC ne croit pas que ces organismes auxquels la communauté opérationnelle pourrait transmettre ses demandes pour les fonctions, mais plutôt que la CCNSO ne pourrait que déléguer les mécanismes communautaires au groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité, ayant à passer par une ou par les deux organisations de soutien aux extensions, et cela impliquerait qu'on serait mieux placé pour faire des demandes aux différentes communautés. Alors, il faut vous rappeler à ce point-là que si vous devez passer par un processus de séparation et remplacer les fonctions Yana, cela impliquerait que l'opérateur des fonctions Yana actuel n'a pas bien fait son travail et ne respecte pas le niveau d'activité et la stabilité de l'Internet et du système des noms de domaine. Voilà quelques remarques. Il y a d'autres remarques sur la diversité géographique également et sur la composition du comité. Il semblerait qu'il y a différentes instances pour cela et finalement on a la charte du groupe intercommunautaire. Tout cela est assuré par la communauté générale de l'ICAN et par la CSNSO et la GNSO. Voilà un résumé des différentes remarques qui ont été faites en mai. La plupart de ces commentaires ont été pris en considération et en juin 2015, la LAC a ratifié la proposition de la communauté des noms. À ce moment-là, seules deux remarques ont été reprises. D'une part, la composition du conseil d'administration de l'IANA de la pré-transition. Et puisqu'à ce point-là, comme vous avez vu, on avait déjà élaboré la proposition et qu'il n'y avait que deux membres du conseil d'administration qui étaient désignés d'une manière ou d'autre, pour lesquels la désignation en tout cas était définie, on a vu qu'il était important d'assurer la diversité géographique. D'autre part, le succès de l'IANA de la pré-transition dépendrait complètement de l'opération et du financement de la nouvelle entité de la pré-transition par l'ICAN. Et puis, il faudrait en même temps que l'ICAN respecte les accords et les conventions de service pour que tout continue de bien fonctionner. La consultation du groupe de coordination de l'IANA, qui vient juste de conclure à la fin du mois dernier, a identifié une remarque qui a été soulevée et qui portait sur les trois propositions qui avaient été présentées. Apparemment, le groupe de coordination de la transition IANA ne s'occupe pas uniquement de consolider les propositions, mais plutôt évalue le fait qu'il y a deux propositions qui sont plutôt liées et une troisième proposition qui manquait. Et c'est la coordination directe du groupe, en réalité, parce qu'on a différentes communautés opérationnelles qui intègrent ce processus. On a par la suite la performance de l'IANA de la pré-transition qui est également appliquée. Il faudrait que l'on discute de ce rapport et que l'on publie un opérateur, un nouveau rapport pour qu'il y ait un autre opérateur chargé de cette fonction. Mais l'autre communauté opérationnelle qui était sur le point de faire cela et de le discuter avec la LAC voulait demander que l'opérateur de chaque fonction soit indépendant pour pouvoir maintenir la stabilité du système. Et donc la coopération opérationnelle entre les trois communautés opérationnelles serait importante parce que si une des communautés opérationnelles n'était pas contente avec l'opérateur et peut-être que les autres deux communautés ne sont pas contentes non plus, peut-être que les trois fonctions devraient être redéléguées à un autre opérateur. Voilà donc la remarque qui avait été faite et qui a été discutée avec d'autres communautés opérationnelles. C'est la possibilité d'avoir un rapport. Voilà toutes les contributions d'ADLARG et de la LAC au processus de transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Comme je l'ai dit, en grande mesure, la proposition du groupe de travail intercommunautaire pour la proposition de la transition du rôle de supervision du fonctionnement IANA dépend du groupe de travail de l'ICAN chargé de la responsabilité. Vous voyez dans ce diagramme que le cadre général est ici. On a un cadre général qui a été présenté par le groupe de travail intercommunautaire chargé de la responsabilité de l'ICAN qui devrait d'abord élaborer le plan et par la suite le remettre à la NDIA du gouvernement des États-Unis. Et donc, je vous remercie et je redonnerai maintenant la parole à Alan. Alan, est-ce qu'on doit faire une pause?
Alors, voyons s'il y a déjà des questions. Alan, au micro, pardon. Olivier, au micro. Je voulais quand même ajouter qu'il y a des collègues qui font partie du groupe de travail et qui sont présents dans la salle. Donc, Alan, je ne sais pas si, par exemple, vous avez des choses à dire par rapport à ce que je viens de présenter, n'hésitez pas. Cher le micro. Allez-y, Cheryl. Alors, Olivier au micro, excusez-moi. Nous avons donc une question de Cheryl et ensuite, il y aura d'autres questions après. Cheryl, allez-y. Cheryl au micro, merci beaucoup. Donc, avec Alan, Olivier et d'autres, nous faisons donc partie du groupe qui travaille sur cette transition. Et donc, je voulais mentionner, avant que nous rentrions dans certains des détails, que Olivier a présenté. Donc, il y a la question du budget. Le budget avec un chevauchement. Et nous travaillons de manière continue sur le travail par rapport à la responsabilité. Alan va en parler. Et il y a en fait une interconnexion entre le désir de mécanisme de responsabilité que le travail de la transition a créé et le travail qui est en train de se faire dans les groupes intercommunautaires sur la responsabilité. Donc ce n'est pas simple, ce n'est pas une relation très simple. Et il y a sans doute des questions là-dessus. Je ne sais pas si on va écouter ces questions avant la présentation d'Alan ou après. Enfin bon, c'était une suggestion, simplement soulever le fait qu'il y a sans doute des questions là-dessus. Olivier au micro. Merci Cheryl. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. La plupart des questions qui restent en suspens dans le travail intercommunautaire sur la transition du rôle de Liana sont en chevauchement effectivement. Et le budget, c'est effectivement une de ces questions un petit peu qui chevauchent le travail des différents groupes. Alors, on m'a dit qu'il y a une question, mais je ne sais pas où elle se trouve, cette question. Est-ce que quelqu'un pourrait la lire? Alors, de Jolly, est-ce qu'il n'y a pas de besoin de coordonnées? Je ne comprends pas. Alan, allez-y. C'était une statistique à laquelle j'avais fait référence dans le chat. Donc, quelqu'un de la réunion de jeudi avait parlé du nombre d'interactions entre les différents RIR. Alors que c'est une centaine par jour pour les ETF. Donc, Jolie, d'après ce que je sais, il y a des règles qui sont établies. Les RIR se rendent à l'IANA pour l'allocation, l'attribution, mais en ce qui concerne les processus, ils existent depuis longtemps, enfin d'après ce que j'en sais. Olivier au micro, merci pour cette réponse, Alan. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires sur la transition de la supervision Yana? Je ne vois pas de main levée pour l'instant, donc peut-être que les questions viendront à l'esprit des différentes personnes suite à la présentation d'Alan. Alors attendons, d'abord, je ne sais pas si c'est un commentaire, mais Dave a la main levée. Merci, Dave au micro. Une petite question par rapport à ce comité permanent de clients. Donc, il y a deux GTLD, deux opérateurs de registre GTLD et deux qui représentent les CCTLD. Mais qui détermine si un opérateur est CCTLD uniquement ou GTLD uniquement? Donc, un représentant, par exemple, qui n'est pas CTLD et pas GTLD. En fait, je ne comprends pas vraiment quel est le type de TLD, quel est le type de registre et ce qu'il représente. Olivier au micro, merci pour cette question, Dave. Et je crois qu'effectivement, il y a eu une erreur dans la diapositive. C'est une diapositive que j'avais enlevée de la série qui avait été présentée de manière officielle il y a quelques mois. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir à la diapositive pour pouvoir en parler un petit peu plus? Donc, dans le CFC dont on a parlé, il devrait y avoir deux CCNSO enregistrés, deux opérateurs de registre CCTLD enregistrés et deux opérateurs de registre GTLD. Donc c'est bien, donc ils font partie de GNSO, mais au CCNSO, certains des opérateurs de registre ne font pas partie du groupe, et donc c'est là qu'il y avait besoin d'avoir des registres qui ne font pas partie de la CCNSO, qui soient donc inclus dans ce comité. Alors, voilà. Attendez, il y a des gens qui font bouger la série de diapositives. Voilà, CSC. Donc, opérateur de TLD non CCNSO. Alain, le micro. Olivier, je voudrais rajouter quelque chose. La première question de Dave, comment est-ce qu'on décide si quelqu'un est un CC ou un GTLD? Est-ce que c'est bien ça la question? J'ai bien compris, Dave? Oui, c'est exactement ça. Qui prend cette décision, en fait? Alors, nous savons qui sont les CCTLD, qui sont les GTLD, donc toute entreprise peut s'occuper des deux, c'est vrai. Mais on ne parle pas de ces opérations, on parle des responsabilités NCC. Par rapport à l'IANA. Olivier, au micro. Oui, merci Alan de cette clarification. Et effectivement, c'est une question qui est importante parce que dans certains des TLD, il y en a donc qui sont des codes pays, mais qui s'occupent également de GTLD. Et donc, au sein du CCNSO, il y a une discussion actuelle comme quoi, effectivement, c'est un petit peu... profiter des deux, donc il peut faire partie des deux groupes. Et jusqu'à maintenant, il y a, je crois, cette autorisation, comme quoi on peut être présent au CCNSO et au GNSO, donc je ne sais pas si cela dépend des règles, et il faudra peut-être qu'il y ait un choix, un représentant qui donc ne puisse se présenter que dans un des groupes, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas vu de règles jusqu'à maintenant, comme quoi la GNSO, par exemple le client de la GNSO, ne pourrait pas être également membre du conseil de la CCNSO. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez des indications contraires. Il y a des gens qui font partie de ces groupes, donc peut-être que peut-être qu'il souhaite intervenir. En tout cas, en ce qui concerne les règles des opérateurs, ce ne sont pas des règles qui sont déterminées par ce processus. Alain, au micro. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la question de la responsabilité. Olivier, au micro. Oui. Une grande partie du travail a été terminée en ce qui concerne la transition. Alors, ce processus peut-il être réellement responsable et comment? Alors, Alan, je vous donne la parole. Alan, au micro. Alors, nous allons parler de la proposition préliminaire du CCWG responsabilité, donc qui parle des questions et de la méthodologie de responsabilité de l'ICANN. La proposition en elle-même est disponible en différentes langues et il y a une série de diapositives qui décrit la proposition actuelle et qui est disponible également en plusieurs langues. Donc vous pouvez noter l'adresse pour cette série de diapositives. La série que nous regardons actuellement existe dans le wiki. avec donc l'ordre du jour de cette réunion, et vous pouvez aller voir ça plus tard. Alors, le CCWG responsabilité pour l'instant a deux pistes de travail. La première, c'est donc la piste de travail qui, à l'origine, devait s'occuper des questions de responsabilité qui étaient nécessaires pour la transition. Et la piste 2, c'était d'autres choses qui étaient bonnes pour le travail de la CAN. Cette piste 2 a un peu été modifiée. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. La première piste devait inclure tous les aspects de la responsabilité nécessaires pour la communauté, en particulier pour permettre à ceux qui n'est pas nécessaire pour la transition d'être en fait mandaté par la communauté, et donc mis dans la piste de travail numéro 2. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons les outils pour s'assurer que la transition se fasse sans problème. Et c'est donc de cela que nous allons parler maintenant. Alors, j'aimerais que vous leviez la main si vous avez participé au webinaire que nous avons fait il y a un mois sur la proposition préliminaire de l'ALAC sur donc le CCWG responsabilité. Alors, je vois une seule personne lever la main. Alors, nous avons donc quelques personnes. Sébastien, d'accord. Je ne vois pas beaucoup de gens, en fait, cocher. Donc, je vais quand même parler de la plupart des aspects, donc. En tout cas, merci pour votre réponse. Alors, commentaire sur le multipartisme. Donc, nous disons que nous avons besoin de ce multipartisme, que nous souhaitons la diversité, et ce sont des choses importantes, étant donné l'historique des gens, et aussi pour avoir différents points de vue, pour trouver ce qui est commun, faire ceci de manière honnête. Mais ceci est parfois difficile parce que nous avons tous des approches très différentes, nous avons tous différents états d'esprit. Ceci est vrai au sein du CCWG et ceci est vrai au sein d'ALAC et d'ATLARGE. Donc, obtenir une déclaration finale est parfois difficile. Alors, l'intention de cette déclaration est multiple. Il y a certaines questions qui ont été soulevées parce que nous avons le sentiment qu'elles doivent être changées. Et donc, nous ne nous attendons pas à ce que l'ALAC ratifie la déclaration si certaines questions ne sont pas solutionnées. Pour certaines, nous pensons que ce serait bien qu'elles soient changées. Mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elle le soit. C'est simplement une déclaration de notre point de vue. Il y a eu beaucoup de participation à large. Nous avons 5 membres du groupe de travail en lui-même, du groupe de travail intercommunautaire, et un certain nombre de participants. Et la différence entre les deux, en théorie, c'est que seuls les membres peuvent voter si on en arrive à voter. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de vote. Et si tout le monde n'est pas d'accord par rapport à la méthodologie, tous les participants ont été traités de manière égale au sein du travail. Et dans certains cas, il y a de grandes parties du travail qui ont été entreprises par des gens qui étaient simplement des participants. Nous avons ce que nous appelons le groupe de travail ad hoc sur les questions Yana. Au début, c'était uniquement un groupe de travail qui s'occupait des questions Yana, et de plus en plus, ce groupe a considéré la question de la responsabilité. Nous nous sommes réunis 2 fois par semaine au cours des semaines dernières pour donc rédiger la déclaration sur les différentes questions. Il y a des membres d'ATLARGE qui ont vraiment un impact très important sur cette déclaration préliminaire, et Afralo en particulier a rédiger sa propre déclaration et à contribuer également au travail de l'ALAC. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. Notre point de vue général, c'est que nous pouvons appuyer la proposition qui a été faite. Il y a certaines parties avec lesquelles nous ne sommes pas satisfaits, mais nous pouvons l'appuyer avec certaines réservations. Donc. Et il y a certains points quand même que nous considérons comme devant être changés. Nous aurions préféré moins d'obligations juridiques, une structure moins complexe. Et il y a certains mécanismes qui rendent un petit peu difficile le changement de l'organisation de l'ICANN à l'avenir, à notre avis. Alors, la substance. Les statuts ICANN, et tout ceci se focalise surtout sur les changements des statuts ICANN sans changer la nature de l'ICANN, il y a un certain nombre de déclarations de mission, d'engagement, de valeurs fondamentales, qui, en fait, sont vraiment un petit peu les choses principales qui guident le comportement de l'ICANN. Il y a donc des missions, des engagements, des valeurs qui, pour certains, sont bons et qui, pour certains, soulèvent certaines préoccupations. Premièrement, le concept du secteur privé. Donc, premièrement, l'ICANN est dirigé par le secteur privé et non pas par des gouvernements. Donc, si vous allez sur Google, si vous regardez quelle est la définition du secteur privé, il y a différentes définitions. Parfois, le secteur privé, c'est tout sauf le gouvernement. Et puis, parfois, c'est donc les entreprises, les affaires. Donc, pour nous, pour certains dans le groupe at large, il est important de définir le secteur privé. Donc, cela a été fait, mais malheureusement, l'at large, les utilisateurs ont toujours été mis dans le concept du secteur privé à titre de société civile. Autre intervenant au micro. Je viens de rentrer par la connexion Adobe et j'écoute. Alan au micro. Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis très heureux que vous écoutiez. Merci. Stefano, c'est Stefano. Ah, bonjour Stefano, je viens d'Italie, je suis en Italie. Alan au micro. Merci beaucoup Stefano de nous écouter. Donc, nous avons été inclus dans la société civile, nous avons été étiquetés comme la société civile. Alors, il est clair qu'il y a de grands groupes dans l'Atlarge qui sont société civile, mais la société civile, ce sont des groupes qui ne sont donc pas des groupes gouvernementaux, qui ne sont pas des groupes à but non lucratif, mais il y a d'autres structures également. Et il y a des parties d'attelage, comme par exemple les utilisateurs individuels, les RALO, qui ne font pas partie de la définition de base de la société civile. Donc, nous souhaiterions voir inclure ces autres groupes, ces utilisateurs finaux par exemple, dans la définition de l'at large. Alors, il y a certaines références au DNS sans jugement qui ont été ajoutées. Et en fait, nous ne savons pas à quoi ça correspond. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que cela veut dire que l'ICANN ne peut plus faire de jugement par rapport au TLD? Pour l'instant, les TLD, par exemple, oui, sont jugés. Est-ce que c'est le fait que le DNS ne doit plus être jugé? Nous savons qu'il existe des filtrages dans certains pays. Est-ce que nous allons polisser le spam, le pourriel? Est-ce que cela peut être considéré comme un jugement? Le fait qu'un nom de domaine soit filtré ou non? Donc, pour nous, cette déclaration n'est pas claire. Donc, il faudrait pouvoir définir ce que cela veut dire. Une des valeurs fondamentales, c'est qu'actuellement, donc, il est écrit, dans la mesure où cela est approprié et envisageable, donc déléguer les fonctions de coordination à certaines entités doit être fait. Alors, le CNSO est responsable des politiques ou plutôt de recommandation des politiques. Alors ensuite, le conseil d'administration décidera de savoir si il est d'accord ou pas. Et entre autres, la recommandation, c'est donc d'éliminer cette partie dans la mesure où cela est approprié et envisageable, et puis également de transférer des entités à des entités qui sont internes. Et donc pour nous, cela est problématique. Donc encore une fois, là où cela est envisageable et approprié, suivant les mécanismes du marché, donc de promouvoir un environnement compétitif. Donc, l'ICANN, en fait, n'a plus la possibilité d'envisager, par exemple, l'intérêt public. Si on peut faire passer ceci aux mécanismes du marché, en fait, les mécanismes du marché iront où ils souhaiteront aller. Et nous croyons fermement que l'ICANN a une responsabilité par rapport à la sécurité et à la stabilité, mais par rapport également à d'autres questions d'intérêt public. Alors, le principe 8, essayer d'arriver à un équilibre raisonnable entre les intérêts des différentes parties prenantes. Donc, encore une fois, une déclaration qui dit, bon, les parties prenantes, sans prendre l'intérêt public, la sécurité, la stabilité, en compte. Alors, partie suivante. Un des concepts qui a été introduit, c'est donc le concept des statuts fondamentaux. Actuellement, c'est donc le Conseil qui peut changer ses statuts fondamentaux de manière unilatérale. Nous introduisons le concept comme quoi les statuts, d'une manière générale, peuvent être mis en cause par la communauté. Donc après le fait, mais il y a certains statuts, en particulier ceux qui sont liés avec la responsabilité, qui doivent être approuvés de manière unanime pour être mis en place. Ce sont donc les statuts fondamentaux. Donc, à large appui, les propositions, il y a un certain nombre de détails, d'incohérences en termes de seuil de vote qui doivent être remis en cause, mais d'une manière générale, le principe des statuts fondamentaux, c'est quelque chose que nous appuyons réellement. La proposition améliore le mécanisme de recours de l'ICANN avec reconsidération du conseil d'administration et le processus de révision indépendant. Donc, à mon avis, un des points qui a déjà d'ailleurs été clarifié, c'est que donc, nous nous inquiétions un petit peu qu'un panel externe puisse intervenir. Ce n'est pas le cas. En fait, ce panel extérieur peut déclarer son opinion par rapport au fait que l'ICANN a ou non suivi ses statuts, et si l'ICANN semblerait ne pas avoir respecté ses statuts, eh bien, c'est à l'ICANN de s'occuper du problème. Donc, cette entité externe ne va pas décider de la manière dont on va réparer le problème. Donc, nous sommes d'accord, nous avons certaines préoccupations, mais de manière générale, ça va. Donc, l'ensemble de diapositives, c'est de savoir comment est-ce que la communauté peut intervenir. Donc, actuellement, ce qui est proposé, et nous en parlerons un petit peu plus tout à l'heure, de la manière dont les choses vont se faire, parce que ceci représente vraiment un sujet de discussion. Donc, le mécanisme de la communauté comme membre unique. Normalement, les organisations membres ont donc un certain système, et là, nous disons que les différentes ACSO, les différents membres de la communauté, ensemble forment les membres. Et donc, toute décision de ce membre doit être faite de manière commune avec toutes les SO et toutes les AC. Le poids des différentes SO et AC C'est un des points de discussion, un des points difficiles. Ce qui est proposé, c'est de donner aux trois pour les CTLD et CCTLD, 5 votes, donc 5 votes également pour le GAC, la LAC, 5 pour GNSO, CCNSO, 5 pour GAC, ALAC, SFAC, et donc le RSAC considère qu'il est donc uniquement un communauté consultatif, donc ils ne sont pas intéressés, le GAC, ce n'est pas très clair, donc il est tout à fait possible qu'il n'y ait que 4 SO, AC, peut-être la LAC, et nous ne savons pas si la SO participera. Donc il est tout à fait possible que cette participation ne fonctionne pas exactement comme ceci. Là, il y a un petit problème, et c'est d'ailleurs un des problèmes qui représente donc les difficultés. La non-participation pourra donc être le choix de certains de ces groupes. Et puis, il y a proposition principale, telle qu'elle est décrite. Donc, tout le monde a 5 votes. La deuxième proposition, les SO en ont 2. Et toutes les AC, pardon, tous les SO en ont 4 et les AC et 2. Donc, notre point de vue est clair. Nous appuyons la première option, mais nous pensons que si le SAC devient indépendant du conseil d'administration, actuellement c'est le conseil d'administration qui nomme les membres SO et AC, donc s'il y a indépendance, à ce moment-là le statut doit être entier. Donc il serait bien qu'on en ait 5. Pour tout le monde. En tout cas, nous refusons absolument l'alternative numéro 2, le concept que la LAC, le GAC ait moins de droits de vote que les SO. Et à ce jour, c'est le seul problème qui nous mènerait à ne pas ratifier le rapport. Ce n'est pas une décision et qui a été prise de manière officielle, mais en tout cas, c'est mon sentiment. En termes de pouvoir de la communauté, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont la possibilité de rejeter un plan stratégique, un plan opérationnel ou un budget, de donc remettre en cause les statuts standards, approuver les changements aux statuts fondamentaux, révoquer un membre du conseil individuel et révoquer un membre, ou plutôt tout le conseil. Alors, notre problème, il est vraiment par rapport au budget. Il y a la question du veto deux fois, avec donc le deuxième veto qui a un seuil plus élevé. Si le conseil refuse d'ajuster le budget suite au veto, eh bien, il y a un problème à ce niveau-là. Nous pensons donc qu'il y a un problème si, par exemple, la CAN a dépensé trop d'argent, s'il y a un problème de revenus, à ce moment-là, les dépenses doivent baisser. Et donc là, nous avons un problème. Il y a également la question des vétos du budget qui pourraient être utilisés pour, en fait, construire les organisations. Et il n'est pas très clair de savoir comment les allocations vont être faites, parce que le conseil pourra en fait ajuster le budget en milieu d'année. Donc, la possibilité de révoquer des membres du conseil individuel, je ne sais pas si cela prête à contention, mais c'est quelque chose qui suscite différents points de vue dans l'at large. Est-ce que la décision doit être prise par les SO et les AC qui ont nommé la personne ou par l'ensemble de la communauté? Est-ce que il y a la possibilité du membre de se retirer, par exemple suite à un appel? Y compris, il y a la question aussi de éventuellement de poursuite en justice, il y a la question de la calomnie, de la diffamation, du discrédit, donc, qui ont des implications importantes.
Donc, on parle d'une option ici qui unit toutes les autres pour le conseil d'administration. Il n'est pas facile d'imaginer une situation où on ne pourrait pas faire cela à une exception près, c'est le fabuleux. Cette option est vraiment la principale. Donc, en matière de diversité, d'autre part, c'est une question qui est très importante pour nous. Les différents groupes devraient assurer une diversité des participants. C'est quelque chose de difficile et de sensible, et une des recommandations demande à ce que la TRT s'occupe de vérifier la diversité dans la composition des différents groupes. Donc on verra si cela est possible. L'affirmation d'engagement actuelle qui unit les processus et les révisions de l'ICANN à l'affirmation d'engagement actuel peut être annulée de manière unilatérale. À notre avis, cela devrait être intégré au statut constitutif afin que le conseil d'administration de l'ICANN ne soit pas capable de l'annuler à lui seul. Donc il y a différents détails qu'on essaie de définir en ce moment par rapport à ce concept. Diapo suivante, on va essayer quelques détails. On a différentes versions sur la version web. Je ne sais pas pourquoi il y a des détails qui ont été modifiés, mais si vous voulez réviser les différentes versions, vous verrez que tout le texte y est inclus. On a quelques ressources, dont vous voyez ici les liens, pour pouvoir accéder d'une part au Wiki de la déclaration de la LAC, vous avez la version actuelle et les versions précédentes, au cas où vous voudrez voir les modifications qu'on y a apportées. D'autre part, on a la liste de diffusion des problématiques liées à l'IANA. C'est une liste à laquelle, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez accéder à travers ce lien pour voir toutes les informations qui sont disponibles. Et finalement, un wiki du document du CCWG aussi. Pour ce qui est de la situation actuelle, à la fin de la semaine dernière, on a eu une réunion en personne, vendredi et samedi. À cette réunion, une grande partie du groupe de travail a participé, ainsi qu'un bon nombre des membres du conseil d'administration. Il y avait Larry Strickland de la NTIA, et il a fait une déclaration brève qui ne nous a pas surpris. Au contraire, il a dit que les propositions à l'heure actuelle, les propositions que l'on considère, ne s'adaptent pas à ce que la NTIA voudrait voir parce qu'il n'y a pas suffisamment de détails. Il a également dit qu'il faudrait simplifier ces différentes déclarations. Ils sont complexes et qu'il nous faut pour satisfaire la présentation. Donc, ce qu'il dit est que beaucoup de ce qui est dit dans cette proposition porte sur la responsabilité de l'ICANN et pas tellement sur la transition. L'ensemble du conseil d'administration a également participé à cette réunion, le conseil ayant fait des commentaires sur le plan de transition la semaine dernière. Des fois, ils ont soutenu les propositions de mise en œuvre, mais d'autres fois, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était proposé pour le modèle, d'une part, parce qu'ils croyaient à ce que l'organisation suive des processus et la capture de tout ce qui a lieu et qu'on ne peut pas prévoir à ce point-là. Cette déclaration correspond exactement à ce que prévoit la NTIA. D'autre part, on a un problème de budget qui est assez significatif et c'est aussi quelque chose considéré par les déclarations de l'ALAC. Donc la proposition du Conseil semble ne pas être acceptable à la communauté à large. Pour la plupart, il s'agit de différentes questions qui pourraient être reconsidérées. La question n'était pas aussi significative que prévu, mais le Conseil était avec le CCWG. Donc à ce point-là, la possibilité d'avoir une proposition à soutenir et d'avoir une question à discuter lors de la réunion de Dublin, et c'est à quoi on s'attendait pour la réunion de 2 jours, est fort improbable. Il y a beaucoup de résentement au sujet de certaines déclarations du Conseil d'administration. Et on sent que le conseil d'administration essaie de contrôler le processus. Je ne pense pas que ce soit raisonnable pour les commentaires de la NTIA ou alors que les différentes modifications du conseil d'administration doivent être faites par le conseil. Le conseil ne va pas prendre des mesures s'il sent que ces mesures ne sont pas censé, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé. D'autre part, il y a des exercices d'analyse de crise qui parlent des conditions sous lesquelles le conseil d'administration doit exercer les statuts constitutifs et les mesures spécifiques sur la considération du GAC. Mais si le GAC refuse d'analyser cela, ça pourrait impliquer différentes options. On a donc spécifié en un peu de détail la manière dont le GAC gère ces situations. Mais le GAC a déjà dit qu'il n'est pas approprié à leur avis d'avoir ce type de mesures dans le statut constitutif pour gérer ce type de situation. Le GAC semblerait avoir ratifié ces questions. À ce point-là, la transition du Yana, clairement, dépend d'une proposition de responsabilité réussie qui soit adoptée par le conseil d'administration, non seulement acceptée, et qu'avant la transition elle-même, il faut apporter les modifications nécessaires. Et dans certains cas, ces modifications doivent être apportées avant que la NTIA reçoive la version finale de la proposition consolidée. Il y a des personnes au sein du groupe de travail qui ne sont pas intéressées à cette transition et même pas à la question de la responsabilité non plus. Donc ces personnes voudraient voir la fin du processus. Il y a des personnes qui pensent que cela ne correspond pas au modèle multipartite et que ça implique qu'on n'a pas réussi à assurer les fonctions, que la transition en fait impliquerait la fin du modèle multipartite. Et on se demande si on ne devrait pas exercer notre rôle dans les rapports gouvernementaux, et c'est une question ou un avis qui est soutenu par différents pays. Donc ce serait bien si on réussissait à le faire pour voir si à ce point-là, on pourrait ou pas mettre en œuvre ce type de mesure. On ne sait pas si on va réussir, pour certains parmi nous c'est possible, mais on ne peut pas être sûr jusqu'à ce que le moment sera venu. Il y a des personnes qui discutent du concept d'adhésion qui commence à comprendre que le conseil d'administration ne va pas arrêter d'essayer, donc qui va essayer de s'occuper des nécessités du conseil et de la communauté en général. Donc je dis, peut-être qu'on pourrait accepter le modèle d'adhésion, le modèle de participation, mais nous sommes aussi en mesure de pouvoir faire ces efforts pour trouver un compromis, et il y a sans doute différentes discussions qui correspondent à cela. Les modifications qui seront acceptées vont sans doute exiger une période de commentaires publics, ce qui veut dire que si on n'arrive pas à conclure ce processus à Dublin, il va falloir également que l'on s'occupe des différents processus commentaires qui, pour le GAC et pour la CCNSO, seront compliqués. Et il va falloir que l'on ait une réunion supplémentaire en décembre ou en janvier pour réunir tous ces groupes pour pouvoir ratifier justement la proposition . Ma dernière déclaration est uniquement mon avis, hein. Mais la dernière fois, à Alicante, on a fait ces modifications, je pense que c'était en 2002 la dernière fois qu'on a fait cela. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Et je me redonne la parole. Et je vous donne la parole si vous voulez poser des questions. Nous voilà déjà 72 minutes. Je pense que c'est un séminaire de 90 minutes, c'est bien le cas? Gisèle prend la parole. Oui, c'est ça, Alan. C'est un séminaire de 90 minutes. Bien, alors il nous reste 18 minutes. Dit Alan, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Je ne sais pas dans quel ordre. Olivier, on vous donnera la parole d'abord. Merci Alan, c'est Olivier qui parle. En fait, Aziz levait la main bien avant moi, donc il peut prendre la parole. Bien, Aziz, vous avez la parole, dit Alan.
Oui, merci beaucoup. C'est Aziz qui parle. Je voulais juste deux petites questions. D'abord, merci à Alan et Olivier pour cette webinaire. C'est très important pour nous. Je voulais poser comme question sur la responsabilité que Alan a exposée. Il a parlé de quelques réserves concernant la déclaration d'ALAC. Est-ce qu'il y a des réserves qui sont importantes ou c'est simplement sur des petits détails? Deuxième question qui est en même temps une information. Comme vous le savez, Afsalo a fait des commentaires sur la transition et sur la responsabilité. Je voulais savoir si la déclaration, les commentaires et les remarques d'Afralo vont dans le même sens que ALAC. Et je voulais aussi informer comme quoi nous sommes en train de préparer pour Dublin, pour la réunion afralo-africaine, une déclaration commune de la communauté africaine concernant ces deux sujets. Et voilà ce que j'ai à dire. Les deux questions, c'est pour Alan et éventuellement Olivier. Merci beaucoup.
Aziz, est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre question? Parce que je vous entends vraiment pas très bien. Vous êtes très loin.
Vous m'entendez là?
Oui, c'est un peu mieux.
Voilà. Ma première question, c'est à propos des transparents de l'ALAN qui avait dit que dans la déclaration de l'ALAC, nous sommes presque d'accord à tous, sauf quelques réserves. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des réserves qui sont importantes ou c'est tout simplement sur des détails? Voilà la première question. La deuxième question sur la déclaration d'Afralo, les commentaires d'Afralo, est-ce qu'ils vont dans le même sens que l'ALAC ou il y a des différences?
Merci. Bien, merci. bien, merci. Bien. Alors, Aziz, par rapport aux réserves. Si la LAC avait des objections par rapport à ce que pense la GNSO, ce serait peut-être une réserve importante, à mon avis, parce que les valeurs fondamentales dans lesquelles on veut modifier la capacité de l'ICANN de prendre des décisions, ce sont des questions essentielles. Il y en a qui ne sont pas aussi importantes, voyez. Donc ça varie. Il y a des réserves plus importantes que d'autres. Pour ce qui est de la réaction du CCWG, on devrait peut-être voir si les modifications apportées à la déclaration sont ou pas suffisantes. Donc ça va varier. Comme j'étais en train de dire, j'essayais de vous donner une idée en termes généraux, mais il y a un modèle qui ne fonctionne pas. Mais il va falloir voir si, même si le fonds ne pas, on peut l'accepter ou pas. Donc on a différentes personnes d'Atlas qui préféraient de voir d'autres modèles, mais qui ne s'opposeraient pas ou qui ne publieraient pas d'objections spécifiques là-dessus. Donc cela vous donne une idée. Je vais maintenant donner la parole à Olivier et puis je donnerai la parole au reste des personnes.
Olivier Crépin, le boulon au micro. Merci beaucoup, Alan. En fait, ma question était tout à fait similaire à celle d'Aziz, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une ligne rouge ou est-ce qu'en fait, on tire un trait en se disant non, nous n'allons absolument pas approuver ceci pour la ratification. Je pense que vous avez très bien répondu à la question, ceci étant, mais ma question de suivi à partir de là, ce serait la suivante. Est-ce que le conseil d'administration a fait des contre-propositions au cours de ces 3 jours pendant les quelques journées à Los Angeles? Est-ce qu'il y a eu une convergence entre le conseil d'administration et la communauté? Parce que ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que ce membre unique semble avoir été approuvé. Et ce n'était pas le cas il y a quelques jours de ça. Il y avait certaines personnes dans la communauté qui avaient dit, oui, c'est la ligne rouge. Ce membre unique. Donc, où est-ce que nous allons? Où en sommes-nous? Et la communauté est-elle prête à avancer, à se mettre d'accord par rapport à ce que le Conseil a dit? Alain, le micro. Il y a certaines personnes dans la communauté qui sont membres, qui sont participants, et d'ailleurs, cela peut devenir important, mais même s'ils sont membres, il y a certaines personnes qui pense réellement que le modèle de membre est très important. Le conseil d'administration a été très clair là-dessus, ce concept de membre ne va pas être approuvé. Donc, si on ne peut pas arriver à solutionner cette impasse, eh bien, on ne peut pas avancer en termes de transition, de responsabilité, etc. C'est très simple. Donc, est-ce que moi je pense qu'on peut en arriver à une conclusion? Oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de membres qui préféreraient voir ce modèle de membres et si c'est obligatoire, peut-être que nous allons avancer. Ce n'est pas comme la question de Contraco que nous avions avec le CCWG. Je ne sais pas comment les choses vont se faire, mais en ce qui concerne notre point de vue, par rapport à la proposition du conseil d'administration, de manière générale, je crois que nous l'appuyons. Je pense que le conseil a fait une erreur stratégique parce que plutôt que de critiquer les parties de la proposition CCWG par rapport auxquelles ils n'étaient pas d'accord, ils ont remplacé de grandes parties, donc les mécanismes. Et donc ils ont fait une erreur. Ils auraient dû prendre les parties qui leur convenaient et les modifier, et modifier les autres. Pardon. Donc nous allons, je pense, revenir à un point d'accord. Un des aspects de la proposition du Conseil, c'est que s'il faut qu'il y ait, donc, par exemple, arbitrage ou processus juridique, eh bien cela sera fait par les présidents des SO, des AC. Et ça, c'est quelque chose que le CCWG avait pris en considération au début, que nous avons rejeté, parce que nous croyons que cela réduit la responsabilité des individuels, même si cela fait partie d'un processus ICANN, mais en termes de responsabilité, il y a des problèmes, par exemple en termes de transfert à la nouvelle personne, par exemple de responsabilité. Il n'y a pas de processus qui permettent de le faire. Je crois que nous avons des mécanismes de remplacement qui existent pour remplacer le concept. Donc, c'est un ancien concept qui avait été rejeté pour de très bonnes raisons. Donc, il y a un certain nombre de problèmes par rapport à leurs propositions. Mais nous sommes relativement alignés sur la majorité de leurs propositions. J'espère que cela répond à la question. Alors, il y a une question de Jolie également. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? Eh bien, on est pressé parce qu'il y a une élection présidentielle qui va bientôt arriver. Et donc, à l'exception de certaines personnes, il semblerait que le soutien est bilatéral aux États-Unis, du point de vue politique. Si nous arrivons à l'été, lorsque donc les élections sont vraiment lancées, on ne sait pas ce que vont dire les différents candidats, et donc le Congrès est très limité en termes de pouvoir d'action. Donc si on arrive au moment où les élections sont vraiment bien lancées aux États-Unis, les possibilités que cette transition se fasse pendant cette administration sont pratiquement nulles. On ne sait pas qui va gagner, si ce sont les républicains qui gagnent. Nous pensons que la possibilité qu'ils réintroduisent ceci sont minimes. Donc, ou est minime. Donc, c'est vraiment notre opportunité qui va, notre moment qui va vraiment se terminer assez rapidement. Nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons une autre opportunité. Il y a un certain nombre de gens aux États-Unis qui pensent que l'Internet est essentiel. Donc, pour le Congrès, et donc pourquoi lâcher prise en fait. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Si nous souhaitons que les choses se fassent d'ici juin, en fait c'est vraiment notre date butoir, à ce moment-là il y aura révision par la NTIA en début d'année, parce qu'il y a certaines périodes de délai qui vont entrer en jeu. Il y a un certain nombre de temps qui est nécessaire pour que la NTIA fasse son évaluation officielle. S'ils n'ont pas de proposition au début de l'année, avec les statuts déjà activés, eh bien, on n'arrivera pas à une résolution. C'est pour ça qu'on est pressé. Alors, j'ai deux questions. La première personne, Akin Awakoya. Emmanuel, peut-être? Je ne sais pas, je ne vois pas toutes les lettres de votre nom. Mais en tout cas, vous pouvez parler, monsieur. Je ne sais pas s'il est sur le canal français. C'est là au micro. J'essaye d'activer le micro d'Akin. Ça n'a pas l'air de marcher. Alan, nous allons donc parler à Sébastien, et puis il y a une question dans le chat. Donc pour l'instant, Sébastien, allez-y, et après nous passerons la parole à Akin, puisqu'il semble ne pas avoir le micro activé. Sébastien, au micro, merci Alan, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon. Sébastien Vachelet, donc au micro. Excusez-moi, j'ai un problème. Excusez-moi, j'ai une double voix, j'ai un écho. C'est bon maintenant, allez-y. Alors, Sébastien, donc, toujours, quelques commentaires. Premièrement, par rapport au fait que nous sommes pressés. Oui, c'est vrai, je comprends, mais je crois qu'il faut que nous ayons un autre point de vue là-dessus. On dit toujours que notre organisation, donc cette organisation multipartite, doit s'améliorer et travailler plus rapidement. Donc, il ne faut pas oublier cela. Si nous souhaitons prendre position à l'avenir, nous ne pouvons pas passer des années sur un sujet. Nous pouvons nous améliorer et travailler plus rapidement. Deuxièmement, par rapport aux lignes rouges, notre amour des lignes rouges, des la question... Et donc les modèles de membres, les modèles en régional, il y a des gens qui ont leur propre ligne rouge, d'autres qui ont d'autres lignes rouges. Et donc au niveau mondial, si on considère toutes les lignes rouges, on n'arrivera pas à une solution sur le modèle. Et si nous pensons que certaines des questions sont simplement des points de contention, oui, je suis d'accord avec vous, Olivier. Donc, aller au tribunal, tout à fait. Il y a la question de la corruption également. Mais si nous pouvions éloigner ceci de notre travail, nous aurions une solution plus simple. Mais je ne pense pas que nous sommes prêts à le faire. Donc, le dernier point, c'est la proposition du Conseil. Bon, elle est bonne d'une manière générale, mais je n'ai pas compris la question par rapport au modèle. Ce qui est important dans la proposition d'aujourd'hui, la proposition du CCWG, ce n'est pas les membres uniques, c'est la question unique, en fait, c'est la question du membre unique. Donc, qui va parler au nom de la GNSO? Qui va parler au nom de l'ATLARGE ou n'importe quelle autre organisation? C'est la question de l'unicité de la solution. Nous avons utilisé la question membre parce que c'était la solution juridique, c'était la seule solution, mais de mon point de vue, c'est donc la question de l'unicité, ce n'est pas la question de membre. Voilà, merci beaucoup. Merci Sébastien. Nous avons une question de M. Schreiber, mais je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au sein des CCTL, des CCNSO qui représentent des registres à l'ICANN? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je ne peux pas parler au nom du Conseil. L'ICANN fonctionne dans le cadre des lois des États-Unis. Je crois que cette question est plutôt une déclaration. Je ne sais pas si j'ai mal interprété, mais je ne peux rien rajouter là-dessus. Est-ce que Hakim peut prendre la parole? Oui. Je peux parler. Nous vous entendons. Alors, j'ai quelques préoccupations. Vous avez parlé de la responsabilité de l'ICANN sans transition. Vous avez également parlé de la conclusion. Vous Désolée, l'interprète a un très mauvais son. Je ne pense pas pouvoir interpréter ce qu'il dit. Désolée encore une fois, nous n'entendons pas suffisamment bien pour pouvoir interpréter. Alors, il semblerait que nous l'avons perdu. Excusez-nous, il y a beaucoup d'écho et de problèmes de son. Alan au micro. Alors, Gisela, nous avons encore une minute. Nous avons dépassé d'une minute. Pouvons-nous continuer? Est-ce que les interprètes sont disponibles? Oui, aucun problème. Alors, ce qu'il serait bien, c'est de résumer la question d'Emmanuel. Il n'y a pas pu y avoir d'interprétation en espagnol ou en français à cause du problème de son. Alan au micro. Merci. Oui, enfin, j'avais des problèmes à entendre moi aussi. Je vais essayer quand même. Alors, est-ce que je pourrais expliquer ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on s'intéresse surtout de la responsabilité et pas forcément de la transition. Deuxième partie, comment est-ce qu'on nous pouvons présenter quelque chose à la NCIA si nous n'arrivons pas à une conclusion? Alors, pour la troisième partie, je n'ai pas entendu. Alors, il faudrait peut-être que Akin écrive sa question dans le chat. Alors, en ce qui concerne la première partie, il y a des personnes qui ne se soucient absolument pas de cette transition NCIA. C'est un fait. Il y a des gens qui... pour qui, peu importe. Je vous dis simplement ce qu'ils disent. Ils sont très actifs dans le processus de responsabilité, simplement parce qu'ils parlent que l'ICANN doit être plus responsable. Ils sont prêts, tout à fait prêts, à dire que si on n'arrive pas à avoir une bonne responsabilité, à ce moment-là, peu importe si la transition se produit ou non, nous allons continuer de pousser pour qu'il y ait une bonne responsabilité. Donc ça, c'est une déclaration par rapport à leur point de vue. Maintenant, comment... Pouvons-nous en arriver à une conclusion pour soumettre quelque chose à la NCIA? Si on n'arrive pas à une conclusion, nous ne pouvons rien soumettre. Si nous n'arrivons pas à trouver une solution en termes de responsabilité, puisque cela fait partie de la transition, certains aspects de la responsabilité font partie de la transition, de ce qui est nécessaire, eh bien, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous n'aurons pas de transition. C'est très simple. Donc, encore une fois, si Akin veut bien répéter sa troisième question dans le chat, je suis tout à fait prêt à y répondre. Olivier, vous avez levé la main? Merci Alan. Olivier Crépin-Leblond au micro. Et donc j'aimerais ajouter par rapport à ce que vous avez dit pour répondre à Akin. Il semblerait qu'il y ait une situation comme quoi certains des participants pensent que nous avons une opportunité de reconcevoir l'ICANN 3.0. Et je crois que de plus en plus, on comprend que concevoir la version suivante de l'ICANN, l'ICANN 3.0, à partir de rien, cela va prendre beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps que les 3 mois que nous avons à notre disposition. Et donc, je ne suis pas sûre si les participants pensent que si l'ICANN 3.0 ne ressort pas du processus, donc, regardez le processus 1, la piste 1 de travail, donc la transition. Si on n'arrive pas à la CAN 3.0 plutôt que le 2.1 ou le 2.5, eh bien, les gens disent, en fait, nous n'allons pas être d'accord. Alan au micro, je ne crois pas qu'il y a une seule réponse là-dessus, parce que les gens ont des différents points de vue. Personnellement, je pense que l'ICANN 3.0, c'est un mot comme ça qu'on utilise, mais la nouvelle version de l'ICANN, eh bien, elle va au-delà de la responsabilité. Cela fait partie du processus actuel, mais la responsabilité des SO, des SC, de la communauté en général, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. parce que actuellement, vous, et d'ailleurs beaucoup d'entre nous, connaissons les problèmes que nous avons lorsque l'intérêt public est contraire à certains intérêts. Et donc la question, c'est de savoir si l'ICANN peut répondre à ces questions. Si nous éliminons la responsabilité du conseil, si nous donnons certaines responsabilités à quelqu'un qui vraiment s'en charge, je pense qu'une version ICANN 3.0 devrait inclure une révision très attentive, à savoir est-ce que les SO, les AC sont efficaces, est-ce que la structure de l'organisation est adaptée. Et à mon avis, il n'y a jamais eu un exercice ICANN 3.0, mais c'est effectivement quelque chose qui a été mentionné par d'autres. Cheryl, Cheryl, le micro. Je voudrais faire un suivi là-dessus parce que je pense que nous devons revoir notre intention par rapport au travail que nous faisons dans ce groupe de travail intercommunautaire sur la PITE 1 de travail. Donc, il y a des dépendances qui semblent essentielles pour la transition. Il y a certaines métamorphoses qui sont nécessaires, mais l'ICANN le nouveau modèle n'est pas obligatoire. Par contre, la responsabilité est obligatoire. Et donc, je crois que nous en sommes au début de notre processus. Il faut absolument qu'il y ait un engagement très fort, des exigences par rapport à la planification du projet, par rapport à certains délais. Il faut ensuite qu'il y ait d'autres améliorations qui soient continues et qui soient plus longues dans le temps. Donc je suis tout à fait d'accord, ce genre de mots 3.0, c'est des façons de parler que nous utilisons, je suis d'accord. Mais il faut, à mon avis, que nous nous comprenions bien par rapport à ce qui est nécessaire. Déjà, un pas en avant par rapport à ce qu'il faut faire en termes de responsabilité et de transparence maintenant. Donc ça, c'est le travail principal sur lequel nous nous concentrons actuellement. Mais nous avons également besoin d'une perspective plus large qui dise « et il y aura un engagement par rapport à des améliorations continues ». Parce qu'il y a des gens qui ont l'expérience des évolutions passées, des pas en avant passés, qui nous ont permis d'en arriver où nous en sommes actuellement, et nous savons que cela prend longtemps. Et nous n'avons pas le temps justement de le faire maintenant, tout ceci. Alain au micro. Merci Cheryl. Il nous reste 2 minutes et puis 3 à 4 minutes qui seront nécessaires pour les questions-réponses pour le sondage. Donc j'aimerais remercier tout le monde pour la participation. Nous allons rapidement passer donc au questionnaire, au sondage d'opinion. Alain, merci beaucoup. Gisela au micro. Nous allons passer au petit sondage rapide. Nous avons besoin de votre point de vue. Nous souhaitons donc savoir ce qui est nécessaire pour améliorer le webinaire pour les séries suivantes qui auront lieu l'année prochaine. Alors, il y a des questions. Voilà, nous les avons affichées. Donc, première question, vous l'avez d'ailleurs à l'écran traduit. Donc, est-ce que l'horaire du webinaire vous convient? Donc, répondez trop tôt, bien ou trop tard. Donc, vous pouvez maintenant voter. Je vous donne quelques secondes pour le faire. Alain, au micro. J'imagine... Alors, la question, c'est est-ce que l'horaire du webinaire Est-ce que le webinaire est à une bonne heure de la journée? Donc, est-ce que l'horaire du webinaire vous convient bien? Donc, est-ce que l'horaire, l'heure, en fait, dans la journée, et non pas le timing dans le temps, mais l'heure de la journée? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont voté. Je vous donne encore quelques secondes pour répondre à cette question. Est-ce que l'horaire vous convient? Alors, qu'est-ce que ça veut dire diffuser les changements? Nous n'allons pas diffuser les votes, les résultats. Ce sera fait après le webinaire. Ah, je vois parce que je suis intervenant, c'est pour ça? Oui, merci Alain. Alors, 9, 10 personnes qui ont voté. Alors, 10 réponses pour l'instant. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Alors, question numéro 2. Comment trouvez-vous la technologie utilisée pendant le webinaire, audio, vidéo et communication téléphonique? Donc, vous pouvez voter entre 5 et 1, donc 5 très bien, 4 bien, 3 suffisant, 2 mauvais et 1 très mauvais. Je vous donne quelques secondes pour répondre. Alors, s'il y a des personnes qui écoutent le webinaire et qui ne sont pas sur Adobe Connect, vous pouvez donc nous envoyer vos questions par la suite. Donc, deuxième question, comment trouvez-vous la technologie utilisée pendant le webinaire? Nous avons 10 réponses pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup pour votre patience. Nous allons maintenant passer à la question suivante.
Question 3, alors, est-ce que les présentateurs maîtrisaient le sujet? Alors, vous pouvez ici noter de 5 à 1, suivant la réponse. Alors, c'est très bonne maîtrise du sujet pour 5, 4, bonne maîtrise du sujet, 3, maîtrise suffisante du sujet, 2, maîtrise insuffisante du sujet, ou 1, maîtrise très insuffisante du sujet. Alors, on a 9 personnes jusqu'à présent. On aimerait avoir davantage de réponses pour que ce soit plus réaliste, pour avoir davantage de résultats. Gisela, c'est Olivier qui parle. Ça va être différent pour moi de répondre à cette question parce que je suis souvent le présentateur, vous comprenez? Mettez-vous 5, Olivier, c'est Cheryl qui parle. On peut dire que vous êtes un 5, n'est-ce pas? 20 sur 1. Moi, je vais donner un 5, en tout cas. Gisela prend la parole. Nous allons passer à la question suivante. C'est Alan qui prend la parole. Et si un présentateur était magnifique et l'autre était très très mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Moyenne. Gisela prend la parole. Ah, Alan, merci. C'est vrai, on en prend note pour la fois suivante. Si on a plus de un présentateur, ce qui est souvent le cas, on aura des questions séparées. Alors, numéro 4, est-ce que vous êtes satisfait du séminaire web? Vous pouvez ici noter de 5 à 1. Numéro 5, la valeur 5, c'est très satisfait. 4, satisfait. 3, assez satisfait, 2, peu satisfait et 1, pas satisfait du tout.
Alors, est-ce que vous êtes satisfait du webinaire ou du séminaire web? Bien, apparemment, on a 10 réponses pour cette question numéro 4 et nous allons maintenant passer à la question numéro 5. La question numéro 5 est: quels sont les sujets que vous souhaiterez voir dans les séminaires à venir, dans les prochains séminaires web? Quels sont les sujets que vous souhaiterez voir dans les prochains séminaires web? Et donc, pour vérifier, nous avons donc la question qui est: quels sont les sujets qui vous intéresseraient pour les prochains séminaires? Quels sont les sujets que vous voudriez voir dans les séminaires à venir? J'espère que les personnes soient en train d'écrire en ce moment, puisqu'on est déjà à la fin du séminaire web. Merci Alan. Alan prend la parole. Merci Gisela. J'ai déjà remercié tout le monde d'avoir participé, d'avoir assisté, d'avoir répondu à ces questions. Nous allons vous revoir donc pour le prochain séminaire web, pour la prochaine réunion. Et merci à tous et au revoir. Merci les interprètes qui sont restés presque 20 minutes de plus que prévu, donc on leur remercie. Bien sûr, on remercie également le personnel de l'ICANN du travail qu'ils font, ainsi que du sondage. Merci. Gisela prend la parole. Merci à tout le monde. La réunion est maintenant close et l'audio sera déconnecté. On vous remercie encore d'avoir participé à ce séminaire web. Ayez une bonne fin de matinée. Merci, au revoir.